Bon, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Fabienne, je fais partie du comité Attaque 78 Nord, puis c'est cette université populaire dont nous continuons la 7e saison, est organisée par les deux comités du 78, le Nord et le Sud. Voilà. Aujourd'hui, nous recevons Benoît Boritz, je vais en parler un peu plus tard pour le présenter. Et je vous signale déjà les prochaines séances, puisque cette année, nous n'avons pas sorti de brochure. On essaye voilà, de fonctionner autrement pour l'instant. Donc, pour ceux qui n'ont pas donné leur mail et qui sont là, vous pouvez nous le laisser. Vous ne serez pas envahis par les informations. C'est uniquement les informations sur les séances de l'université. La prochaine séance est donc en décembre, mardi 11 décembre, toujours ici, à la même heure. Et ce sera un débat contradictoire sur la question de l'Union européenne. Faut-il rester? Faut-il sortir? Enfin, voilà. En gros, hein, mais c'est plus subtil que ça. Donc, vous aurez la surprise bientôt des intervenants. Et puis, la séance suivante, pourrait le noter maintenant, puisque ça va aller vite. On fait des séances aussi à Limay, à côté de Mantes-la-Jolie, à la librairie La Nouvelle Réserve, qui est notre partenaire, ainsi que la librairie du Pavé, ici, qui amène les livres concernant les séances. Donc là, ce sera La Nouvelle Réserve. Le samedi après-midi, on prend un peu plus de temps. Ça dure 2h30, peut-être 3h des fois. Donc c'est samedi 12 janvier. C'est avec un intervenant de la quadrature du net sur la question de nos libertés face à tout ce qui nous envahit, notamment Internet. Voilà, en gros, ce que j'avais à vous dire pour concernant l'université. Donc, le livre de Benoît, le voilà. Lui, il trouve que la couverture est très belle. Elle est, ouais, on dirait un tableau abstrait. Est-ce abstrait? Ce qu'il va nous dire, non, c'est effectivement très concret et très nouveau. Donc, Benoît est chercheur militant. Et il a écrit déjà plusieurs livres. Et il est notamment animateur de l'association Autogestion. Il y a le site, c'est facile, hein, www.autogestion.assos.fr, tout simple. Et il a déjà écrit plusieurs livres, il va en écrire d'autres. Quand on commence, on ne s'arrête plus. Coopérative contre capitalisme, c'est Sileps, et Travailler autrement, les coopératives, qui est présenté ici. Vous pouvez l'acheter aussi. Voilà. Et donc, on avait déjà traité l'année dernière de la question des communs, avec Christian Laval, et j'étais justement heureuse de voir que le préfacier de Benoît sur la question des communs, c'est Pierre Dardot, qui est le collègue, son alter ego de Christian Laval, et qui a écrit des gros livres sur plusieurs livres sur les communs. Mais là, l'approche de Benoît est tout à fait originale, parce qu'en fait, il essaye de mettre ça en relation et de dire que ça peut être une des solutions pour remettre en cause, il remet en cause tout ce qu'on a appris sur la question de propriété individuelle ou propriété collective, et il passe en revue toutes les expériences, notamment de propriété collective, que ce soit les coopératives ou les expériences en Yougoslavie ou en Espagne en 36. Donc il y a un côté historique au départ, donc il pose les jalons là-dessus, et puis il en vient à la question de la mise en cause de la propriété collective de par les expériences qui pour lui collectifs qui sont une impasse et comment les passer pour arriver à une économie des communs. En gros, c'est ça. Donc, il va faire, je ne vous dis pas tout, hein, parce que sinon, il va faire une petite présentation et on compte sur vous pour poser plein de questions pour essayer de voir si vraiment il a tout dit ce qu'il fallait. Voilà.
Merci Fabienne. Merci à Attaque 78 de m'inviter ce soir pour présenter ce livre et puis débattre avec vous surtout de ce livre. Bien, comme je crois que déjà tu l'as bien introduit, je suis parti d'un constat qui était que le projet de propriété collective des moyens de production s'est avéré être une impasse. Très souvent, lorsqu'on parle du capitalisme, on dit bon, le capitalisme, c'est la propriété privée des moyens de production. Et je dirais d'une façon assez naturelle, on lui a opposé la propriété collective des moyens de production. Et on a toujours eu une difficulté à définir quelle était la collectivité. Il se trouve que depuis maintenant quelques années, on a vu des projets de reprise d'entreprise par les salariés sous forme coopérative, qui, selon moi, commençait à renouveler un petit peu ce logiciel de l'appropriation sociale, mais ce n'était pas, à mon sens, suffisant. Et c'est vrai que tu as mentionné Pierre Dardot comme préfacier. J'avais rencontré Pierre Dardot un an à peu près la sortie de son livre commun, Une perspective pour la révolution au XXIe siècle. Et ce qui m'avait intéressé, c'est que dans sa... Je ne parlerai pas de sa théorie, enfin, quoi qu'il a une théorie du commun, ça je le pense, mais dans la pratique du commun, il mettait l'accent sur la notion de droit d'usage qui était supérieur au droit de propriété et qui fondait tout ce qui était, je dirais, pratique du commun. Et là-dedans, il plaçait les reprises d'entreprises par les salariés en Argentine, donc les entreprises récupérées, comme étant, comme procédant de la pratique du commun. Et ça m'avait énormément intéressé, cette approche, parce que c'était le premier qui parlait de commun à propos des entreprises, des reprises d'entreprises par les salariés. Et en même temps, j'y voyais une contradiction énorme, c'est que la forme coopérative en elle-même est une propriété et que de tout ce que je voyais dans les expériences de reprise en coopérative par les salariés ou même de coopératives de salariés qui réussissent, je m'apercevais qu'en permanence, le capital qui est second en régime coopératif, je vous précise que dans une entreprise classique, j'aurais l'objectif d'une entreprise classique, en principe, c'est de faire plus d'argent avec de l'argent. Dans une coopérative, on a une relation différente. Dans une coopérative, on se réunit pour l'objet social et le capital est au service de cet objet social. C'est ce qui explique que vous avez les règles, une personne, une voix, et la règle de, je dirais, profitabilité limitée du capital, pour ne pas dire parfois elle est nulle dans certaines coopératives, et formation de réserve impartageable, qui est une formation de réserve commune. Mais je m'apercevais que dans les expériences coopératives qui réussissaient, très souvent, le capital, il revenait par la fenêtre et il remettait en quelque sorte il refaisait encore prévaloir son droit alors qu'il était censé être second dans la coopérative. Donc ça m'a énormément interpellé et en même temps ces outils du commun c'était ce qui pouvait nous permettre d'envisager une autre solution. Alors pour faire court, de quoi s'agit-il? Je dirais que le projet de propriété collective des moyens de production, pour moi, s'est révélé être une impasse tout au long, je dirais, du XXe siècle. Bon, il a été pensé au XIXe siècle, il a été mis en pratique au XXe siècle sous différentes formes et puis à chaque fois on est arrivé sur quelque chose qui n'allait pas. Alors c'est vrai que la première partie de mon livre en parle, en gros je vois qu'il y a trois propriétés collectives possibles, la propriété coopérative qu'on vient de mentionner avec ses limites, ça il s'agit d'une propriété à l'échelle de l'entreprise qui donc amène beaucoup de difficultés, le fait est que je dirais ça ne solutionne pas la question des rapports marchands. On a des propriétés micro qui sont certes collectives, qui commencent à être collectives avec dans le schéma de l'entreprise, mais qui est, je dirais, qui reste une propriété à l'égard de ceux qui sont à l'extérieur de cette coopérative, d'où le maintien des relations marchandes. Bon, aujourd'hui, je crois qu'alors que pendant tout le 19e siècle, les penseurs, je dirais, du mouvement coopératif pensaient changer le monde avec ces coopératives, je crois que quelques années avant la mort de Charles Gide, qui était le grand théoricien du mouvement coopératif à l'époque, il a constaté que son rêve de république coopérative ne verrait pas le jour et puis que de ce point de vue, eh bien, on se retrouverait, je dirais, le mouvement coopératif s'est défini un petit peu différemment. Il s'est défini comme étant intermédiaire entre le secteur public et le secteur privé et sans, je dirais, réelle volonté de transformation du monde. Alors ça, c'est le premier modèle de propriété collective. Le deuxième modèle de propriété collective, c'est le modèle de l'étatisation. Donc, je dirais, les socialistes du 19e siècle se sont vite rendus compte que la propriété collective, la propriété coopérative était un petit peu limitée. Donc, l'idée, c'était de passer un échelon au-dessus. L'échelon au-dessus, à l'époque du 19e siècle, c'était l'État-nation. Donc, on parle de nationalisation. Alors, vous retrouvez ça dans ce que j'appelle Marx de la première période, celui du manifeste du Parti communiste, où on parle très clairement de cela. Et puis, ça a été mis en œuvre directement par l'Union soviétique, l'expérience de l'Union soviétique, voilà, avec les résultats que l'on connaît. Et puis, il y a une troisième forme de propriété collective qui a été initiée, qui nous paraît a priori beaucoup plus intéressante, c'est celle que je retrouve chez Marx, je dirais, dans la deuxième parti, au moment où il est en contact avec les libertaires dans l'Association internationale des travailleurs. On s'intéresse très clairement aux coopératives. On ne les rejette pas comme étant du socialisme utopique, loin de là. On s'y intéresse, mais on souligne leurs limites. Alors, on préfère la coopérative de travail à la coopérative d'usagers. Ça, je parle des textes de l'Association internationale des travailleurs. Mais on estime que ça doit être des unités qui gèrent un capital qui reste propriété collective. On est un petit peu sur ce schéma-là, tout au moins chez Marx. Chez les libertaires, on le verra, c'est un petit peu différent. Et puis, ça a été ensuite poursuivi par Jaurès, très clairement, comme perspective. C'est-à-dire une propriété collective qui est dans la nation qui s'incarne par les collectifs de travailleurs qui gèrent cette propriété. La mise en pratique, vous la verrez avec la Yougoslavie. Vous la verrez à partir de la rupture, je dirais, des Yougoslaves avec Staline, où il faut repenser en quelque sorte le logiciel. Il faut voir que cette rupture se fait d'ailleurs au nom de Marx. Alors, elle se fait, chose assez amusante, sur une question de conflit de propriété. Et ce sont les entreprises soviétiques qui interviennent sur le territoire yougoslave. Et ça, les communistes yougoslaves n'aiment pas trop, cette espèce d'extraterritorialité. Donc, il y a bien un conflit de propriété. On voit bien que la propriété soviétique, c'est la propriété de l'Union soviétique. Et en face, on a la propriété des Yougoslaves. Et ce sont deux propriétés qui s'affrontent. Donc, il faut repenser le logiciel. Et c'est là qu'ils font, ils opèrent un retour à Marx, qui est assez intéressant. Donc, le fameux Marx de la deuxième période dont je parlais, qui consiste à dire, on va confier la gestion des unités de production aux travailleurs. Alors, en réalité, c'est très complexe. C'est très complexe parce que vous ne pouvez pas confier la gestion ad vitam aeternam à des gens s'ils ne sont pas le propriétaire. Donc là, le problème de fond de la Yougoslavie a toujours été celui-là. Ils n'ont jamais su le régler. C'est-à-dire que on confie à des collectifs de travailleurs, mais au début, c'est plus une co-gestion qu'une autogestion. Parce que, le propriétaire collectif, ça reste l'État. Et puis, le Parti communiste qui s'y incarne. Cette première phase, ça va être une phase d'un très grand succès économique. Les années 50 à 65 vont être les années heureuses de la Yougoslavie en termes de développement économique. Et ça va y avoir tellement de succès qu'ils vont en demander plus d'autogestion. Et là, le parti va y répondre par plus d'autogestion, plus d'autonomie des entreprises. Vous allez plus pouvoir gérer vos entreprises et on va les autonomiser pour évoluer vers ce qu'on appelle une espèce de socialisme de marché. C'est la deuxième phase de 65 à 71, 74 à peu près, qui va amener certaines crises, très clairement. Il y a une année de récession en 1965. Il va y avoir une contestation. Les Yougoslaves vont connaître leur mai 68 qui se déroulera en juin 68. Et au final, le parti répondra d'une autre façon dans une troisième période qui va ressembler un petit peu à ce qu'on va parler maintenant de conseillisme. Alors, je vais y revenir tout à l'heure. Mais je dirais le système était un petit peu déséquilibré dès le début et ils n'ont jamais vraiment réussi à retrouver un équilibre. Alors, je dirais que de ces trois expériences de propriété collective, on s'aperçoit qu'elles sont toutes des échecs. Elles ne nous ont pas amené à l'appropriation sociale, sinon on s'en serait rendu compte, nous ne vivrions pas dans le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui. Et le débat posé, est-ce que ça ne serait pas finalement l'alternative, la non-propriété ? Alors la non-propriété, il y a un penseur qui en parle au 19e siècle, c'est Proudhon, qui dit ce qui est important, c'est pas tellement d'être propriétaire, ce qui est important, c'est d'accéder. Donc là, on retrouve un petit peu le thème du commun, d'ailleurs, qu'on a introduit tout à l'heure. L'important, c'est d'accéder. Et on va voir une petite expérience, une tentative de mise en pratique, qui est la Banque du Peuple de Proudhon de 1849, qui ne verra pas le jour. Mais grosso modo, l'idée, c'était de dire il faut permettre aux travailleurs de financer leur outil de production de façon à ce qu'ils y accèdent. Et c'est un petit peu une idée qu'on va reprendre par la suite. Alors, est-ce que ça veut dire qu'il n'y a pas d'espoir ? Non, parce qu'en fait, il y a deux phénomènes. Il y a le phénomène du surgissement, je dirais, du thème du commun dans les dernières années 2000, ou même les années 90, les années 2000. Elles sont très intéressantes, ces batailles du commun, parce que ce sont toutes des batailles qui se font sur le terrain. C'est, je dirais, l'unique champ de résistance au néolibéralisme. C'est un thème qui est récurrent dans beaucoup de combats altermondialistes. C'est la bataille pour le contrôle des eaux à Cochabamba en Italie, le service public. C'est les batailles contre l'État qu'il privatise un bien, un service public, etc. Donc c'est bien en tant que propriétaire qu'il privatise. Donc il y a bien une notion de contestation de la propriété qui se trouve là-dedans. Donc c'est un thème qui est important. Et puis il y a deux phénomènes aussi qui m'ont paru importants, qui eux sont apparus au XXe siècle, qui contestent aussi la propriété et qu'on pouvait marier, je dirais, avec cette question du commun. Alors ça, puisque ça apparaît au XXe siècle, c'est des thèmes que, bon, je dirais, les socialistes du XIXe siècle ne pouvaient pas du tout imaginer. Alors le premier, c'est ce que j'appelle le thème de la socialisation du revenu. J'englobe ça là-dedans, là-dedans, ça part de quoi ? Ça part de l'apparition des cotisations sociales au début du XXe siècle. Loi sur les retraites ouvrières et paysannes avant-guerre. Un grand débat d'ailleurs entre les anarcho-syndicalistes de la CGT et Jean Jaurès. Les anarcho-syndicalistes de la CGT refusaient cette première réforme en disant que, ben oui, attention, elle est insuffisante, c'est la retraite à 65 ans, l'espérance de vie, elle ne va guère au-delà de 65 ans, donc c'est des revenus en moins pour les travailleurs, etc. Et Jaurès, lui, voyait les choses différemment en disant, non, cette loi n'est pas parfaite, mais elle a un petit intérêt, c'est une petite graine pour le futur, on va pouvoir la rectifier, on va pouvoir en faire quelque chose. Et puis, ça nous a donné petit à petit notre système de sécurité sociale en 1945, les cotisations sociales. Et ce que je trouve très intéressant dans ces cotisations sociales, c'est que c'est une contestation évidente de la propriété. C'est la première fois qu'on dit à l'employeur, qui est propriétaire des moyens de production, lui dit, attention, à partir de maintenant, pour la mise en valeur de ton capital, t'embauches quelqu'un. Ok, mais il va falloir adjoindre au paiement de la personne des cotisations qui vont servir peut-être de salaire différé, mais aussi et surtout de salaire socialisé pour des secteurs non marchands et autres. Et je pense que c'est un aspect contestation de la propriété qui est essentiel. Il suffit de repenser le schéma AMA' du capital, vous savez, le capital argent qui se transforme en capital marchandise, qui revient en capital argent. Ce qui est intéressant, c'est que dans ce flux, c'est la première fois qu'on voit une partie de ce flux qui échappe littéralement au contrôle de l'entreprise et qui est socialisé. Et quand on regarde aujourd'hui tous les débats qui ont lieu actuellement, je veux parler par exemple du débat sur la sécurité sociale professionnelle. Je parle par exemple du débat sur l'allocation universelle. Je ne dis pas que je suis favorable ou défavorable à l'allocation universelle, mais c'est un débat qui existe avec évidemment ses pièges, l'allocation universelle qui est filet de sécurité du néolibéralisme, mais d'autres qui la voient aussi comme un outil d'émancipation à partir du moment où elle a un certain niveau. Et puis on a peut-être une synthèse des deux qu'on va retrouver chez Bernard Friot, peut-être dans le salaire à vie. Bon, tous les débats, c'est des débats qu'on a vus par exemple au moment du Nuit debout, de la contestation de la loi travail. On s'aperçoit qu'en fait il y a dans la société une aspiration énorme à la socialisation aujourd'hui du revenu, une appropriation collective du revenu monétaire produite par les unités de production du secteur marchand. Donc c'est ça qui, à mon sens, est un secteur de renouveau. Alors je fais dans mon livre toute une série de propositions de mutualisation de ce revenu assortie de débats politiques là-dessus. Le message que je veux faire passer dans ce livre, c'est surtout ne nous divisons pas sur ces questions, ne nous opposons pas sur cette question. On peut ne pas être entièrement d'accord avec telle personne ou avec telle proposition ou telle autre. Mais le fait est que ces propositions, le fait que ces débats aient lieu et qu'on veuille les mettre en application, si on les met en application, c'est profondément anticapitaliste au sens contestation de la propriété productive. C'est le message que je veux faire passer. Le deuxième axe qui me paraît intéressant, c'est le fait qu'on s'aperçoit que de plus en plus les unités productives sont financées par emprunt et pas par fonds propres, et pas par capital. Et ça, c'est une très grande tendance qui n'était pas si évidente que ça au XIXe siècle. Alors, bien entendu, il y a un côté ultra-financier là-dedans. C'est le fameux effet de levier. On emprunte des capitaux de façon à mieux rémunérer les fonds propres, mais en même temps, c'est un outil de fragilisation du capitalisme, ce mouvement. C'est ça qui est intéressant. On a un capitalisme de plus en plus fragile pour toute une série de raisons, mais entre autres celui-là. Et puis, il y a la version positive de cet aspect. La version positive, je l'ai trouvée dans le mouvement des SCOP. Il faut savoir que le grand problème d'une reprise en SCOP par des salariés, c'est que des salariés, par définition, ils n'ont pas d'argent. Donc, reprendre leur entreprise, financer les actifs au démarrage, ce n'est pas très simple. Le mouvement des SCOP a récemment développé des outils qui permettent d'intervenir en quasi-fonds propres à la place des salariés. Je parle de Socoden, de SCOP Invest et autres, au point que dans les dossiers, je dirais, sur lesquels ils sont les plus favorables, sur lesquels ils ont les plus envie de s'investir, ils arrivent à financer, je dirais, plus de 95% de l'actif par un financement externe, donc des banques et les financements des outils coopératifs, Socoden, Scopinvest, les prêts participatifs, les titres participatifs. Et ces sociétés-là, en général, bon, de toute façon, ils ne financent pas tout le monde comme ça, hein, loin de là. Je pense que si certains d'entre vous travaillent en SCOP, peut-être que vous dites « Ah oui, ça n'a pas été mon cas ». Bon, c'est vrai, c'est des... je prends deux exemples, ce sont des sociétés absolument extraordinaires, Seralep dans la Drôme, la SET en Haute-Savoie, ce sont des sociétés qui aujourd'hui tournent, mais à chaque fois quand on interroge les gens, on s'aperçoit que finalement le fait qu'ils aient mis 5% ou qu'ils aient mis 0, c'est strictement la même chose pour eux. Ce qui est important, c'est que leur entreprise vive, leur entreprise fonctionne, et ce n'est pas du tout le même rapport qu'avec un actionnaire qui est extérieur à l'entreprise. Donc, la grande question, c'est pourquoi ne pourrions-nous pas financer la totalité de l'actif de l'entreprise par de l'emprunt et donc faire disparaître la notion même de capital. Et quand on fait disparaître la notion même de capital, vous faites disparaître la notion même de propriété. Et quand vous faites passer, terminer la situation de le stade de la propriété, vous basculez vers quoi ? Vers des unités productives qui fonctionne sur la logique et la pratique du commun. Qu'est-ce que c'est ? C'est le droit d'usage. Qui sont les usagers des entreprises ? Les premiers usagers des entreprises, ce sont les travailleuses et les travailleurs de ces entreprises, qui, par définition, cette fois-ci, gèrent leur entreprise, un petit peu comme dans une SCOP, sauf que dans une SCOP, il faut être membre. Là, c'est le simple fait qu'on soit travailleuse ou travailleur de l'entreprise qui détermine notre droit de décider dans l'entreprise, de la gérer, de nommer une direction et autres, et éventuellement un droit imprescriptible des usagers, cette fois-ci, de l'entreprise en tant que usagers des produits que procure et des services que procure l'entreprise, de se mobiliser au cas où l'entreprise serait en oligopole, monopole, de façon à créer une espèce de rencontre travailleuse-travailleurs et usagers autour de l'unité production. Donc la définition à la fin d'un commun productif. Donc je vais conclure là-dessus pour laisser sur le débat en disant que l'architecture sur laquelle nous arrivons là-dedans, c'est bien une disparition de la propriété, une disparition de la propriété qui a été avec apparition d'un véritable commun sans propriété, ça c'était le point, mais qui n'a été rendu possible que parce que d'autres communs ont été présents, des communs de socialisation, des communs sociaux, des communs géographiques, de socialisation du revenu d'une part, et puis ensuite de socialisation des financements d'autre part. Donc c'est un ensemble de communs, une architecture de communs qui permet de faire totalement disparaître la notion de propriété dans au moins dans le, je dirais le sur le thème, je dirais, de l'outil de production, bien entendu. Je ne contesterai à personne la propriété de sa brosse à dents, vous vous en doutez bien. Voilà, je terminerai là-dessus.
Bonsoir, je suis là. Sur la fin, moi je suis assez au courant des thèses de Bernard Friot, donc je vois bien à quel point effectivement la cotisation elle est subversive, parce qu'effectivement elle permet de rémunérer des gens qui travaillent mais qui ne sont pas dans le secteur marchand. Mais le deuxième aspect, c'est donc de voir comme quelque chose de progressiste le fait que l'actif d'une entreprise serait financé uniquement par de l'emprunt, donc c'est-à-dire par des prêts dans les banques. Alors là, vous êtes allé vite, et moi, il fallait que ça aille plus doucement pour moi, parce que là, me dire que c'est mieux que ça soit une banque qu'un propriétaire, etc., est-ce que vous pouvez reprendre ce passage-là doucement et me montrer même pratiquement quel mécanisme ça créerait pour l'entreprise qui devient dépendante donc déjà de l'octroi de ce prêt. Donc ça veut dire qui décide que cette entreprise a le droit de toucher un prêt. Est-ce que c'est toujours une banque? Si c'est une banque privée qui va chercher une rentabilité, etc. Est-ce qu'elle se sort du guépier? Et pour relier avec ce que j'ai dit précédemment, Bernard Friot, lui, défend plutôt l'idée de poursuivre l'idée de la cotisation et qu'on ne recourt pas à l'emprunt, mais qu'on recourt plutôt à la subvention, c'est-à-dire on dégage de l'argent par la cotisation et ensuite on donne cet argent à l'entreprise pour fonctionner sans qu'elle ait besoin de rembourser.
Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. C'est une très grosse question. Non, mais allons-y. Non.
Vous avez parlé beaucoup de l'entreprise et il semblerait que dans votre notion de commun, il s'agit de faire fonctionner une entreprise. Alors que j'ai eu l'occasion de regarder un petit peu ce dossier-là. Il me semble que les communs, ce n'est pas seulement une vision de l'entreprise, c'est aussi une vision de ce qu'il y a autour. Et donc, dans un commun, si une entreprise faisait partie d'un commun, on devrait parler de des consommateurs, ce qu'on appelle maintenant des consommateurs, c'est-à-dire des usagers. On pourrait parler aussi de la notion de faisceau de droit. Il n'y a pas que le droit de propriété ni le droit d'usage, mais il y a le droit auquel je ne sais pas donner un nom, mais le droit du consommateur à avoir des prix, des produits sains, qui aient une réelle utilité sociale, et puis durable, par exemple, et écologiquement sain, et etc. Donc tout ça, ça fait un ensemble plus étendu de notions de commun. J'aimerais bien que vous précisiez un peu.
Oui, je vais prendre le micro, je vais répondre à ces deux questions qui sont conséquente. Hein, voilà. Alors, la première question sur la question, là, vous me posez une question sur la socialisation des investissements et sur grosso modo, le chapitre 7 de mon livre qui est entièrement dédié à ça. C'est vrai que j'ai volontairement fait une présentation courte de façon à ce que nous ayons les échanges et donc je vais m'étendre là-dessus. Comment ça fonctionne ? Ça fonctionne d'abord par la constitution d'un fonds. En fait, c'est un système socialisé de financement qui est composé en gros de trois parties, trois ensembles. Le premier, c'est une banque centrale. Là, je réinvente pas la poudre, elle existe. D'accord. On peut parler du mandat, on peut de la politique qu'on va y avoir. Ça, c'est un sujet qui est complètement ouvert. Hein. Je veux dire, il n'y a pas de problème là-dessus. Mais on n'invente rien. Il y a ensuite ce que j'appelle un fonds socialisé d'investissement. Et c'est bien un fonds, ça n'est pas une banque. Donc, c'est de l'argent qui a été créé par de la cotisation sociale ou de l'impôt sur la valeur ajoutée, etc. Et qui va servir à financer, offrir aux banques des lignes de crédit de long terme. Et on a une troisième composante qui sont les banques, qui sont elles aussi des entreprises comme les autres entreprises, comme aujourd'hui celle-là, et qui vont être gérées en commun comme les autres unités de production. Donc il ne s'agit absolument pas de banques privées. Donc dans tous les cas, le système dans lequel je suis est un système dans lequel l'argent a cessé de rapporter. Alors, du point de vue de l'argent court terme, ça nous ramène à la question de la politique de la Banque centrale. C'est une question que je ne vais pas traiter, mais en gros, c'est ça, on est sur cette ligne. De l'argent qui ne rapporte pas en tant que tel. Le rôle du fonds socialisé d'investissement, comme je l'ai indiqué, c'est le moyen long terme. Donc, le moyen long terme, c'est ce qui permet de faire disparaître les marchés financiers. Tout simplement. Vous savez qu'aujourd'hui, les banques accordent des crédits par création monétaire, que le grand problème des banques, c'est qu'est-ce qui va se passer quand il va falloir se refinancer en termes de taux à l'échelle de 10 ans. Comment seront les taux dans 10 ans? Les banques ne le savent pas et donc elles cherchent à stabiliser leur bilan. Et pour stabiliser leur bilan, aujourd'hui, elles ont recours à trois outils. L'émission de titres financiers, qui sont des actions ou des obligations. D'accord, qui sont des outils de long terme. Le deuxième outil, c'est les produits dérivés. Alors là, on sait à quel point, je dirais, le monde est assis sur une tonne de produits dérivés dont on sait trop quelle sera la résultante. On est dans le toxique absolu. Et puis le dernier point qui n'est pas sans rappeler cette deuxième chose, qui est la titrisation. C'est-à-dire les banques qui enlèvent leurs créances de leur bilan, en font un produit financier qu'on envoie sur le marché. Et ça vous a donné les subprimes. Donc, avec le fonds socialisé d'investissement, on a là l'outil qui nous permet de nous débarrasser définitivement des marchés financiers. Dans cette architecture, maintenant, la question qui peut être posée, c'est la question de l'emprunt. Pourquoi on emprunterait et pourquoi ? La raison est extrêmement simple, parce que l'entreprise qui va emprunter, elle va emprunter pour acheter un équipement, pour avoir de la recherche et développement, et on est dans le secteur marchand, elle va générer des flux de trésorerie, et comme elle va générer des flux de trésorerie, elle va le rembourser. Voilà, c'est ni plus ni moins. Est-ce que les intérêts vont profiter à quelqu'un en privé ? Réponse non. Dans le système que je préconise, alors oui, une chose que j'ai oublié de préciser, sur le fonds socialisé d'investissement, un point qui est essentiel, c'est le fait qu'il y ait des enveloppes budgétaires qui soient fonction des débats que nous avons dans la population sur l'orientation de l'économie. Aujourd'hui, nous vivons dans un système qui est un système dans lequel l'investissement se décide sur la question de la rentabilité. Lorsque l'investissement est rentable, et même pas seulement rentable, mais rentable suffisamment pour les actionnaires, aujourd'hui on est dans le monde de la finance, alors l'investissement se fait. Quid de l'intérêt social de l'investissement ? C'est une question qui n'est jamais posée. Or, dans le fonds socialisé d'investissement, l'intérêt, c'est d'avoir des enveloppes. On va avoir une enveloppe, par exemple, pour la transition écologique, peut-être une autre pour la mobilité, peut-être des affectations par nature lorsqu'il s'agit de privilégier la recherche et développement. Voilà. Et elles vont intervenir avec des taux d'intérêt différenciés et inférieurs au marché général de façon à inciter l'économie à aller dans cette direction qui est le résultat d'un débat citoyen, qui est le résultat tout simplement de la politique. Donc on va avoir des taux d'intérêt qui vont être très peu positifs, je le pense. De toute façon, s'ils sont positifs, ça n'a aucune espèce d'importance que ça n'enrichit personne. C'est interne au système financier socialisé. Ils vont être négatifs, et là, ça va peut-être agir comme une subvention partielle. Mais c'est vrai, je ne suis pas sur le même registre que Bernard Friot d'un financement des investissements par subvention. Pourquoi ? Parce que l'entreprise, il nous prend souvent comme exemple les hôpitaux, ben oui, mais sauf qu'on est dans le non-marchand. Donc ça, on sait faire du non-marchand. Tout est subventionné dans le non-marchand. Les salaires sont subventionnés, l'investissement est subventionné, les achats sont subventionnés. Là, non, on est dans un secteur marchand, donc je pense qu'il faut avoir une logique qui consiste à dire les entreprises vont emprunter en fonction de certaines choses, rembourser parce que ça va générer des flux de trésorerie. Alors la réponse de Bernard Friot consiste à dire oui, mais ça va générer des flux de trésorerie dans les cotisations investissement à nouveau. Mais le problème, c'est que c'est des cotisations au sens large du terme. Nous, ce qui nous intéresse, c'est de savoir quels sont les investissements qui ont marché et ceux qui n'ont pas marché. Et ça, c'est quand même le plus intéressant. C'est de savoir, on a fait tel investissement, ça s'est retrouvé dans les flux de trésorerie parce que l'entreprise a été capable de rembourser. Donc, c'est une façon, je dirais, de voir qu'est-ce qui se passe dans l'économie. Voilà donc le système financier socialisé tel qu'il est brossé dans ce fameux chapitre 7 dont j'ai parlé. Alors maintenant, sur la question du commun, et la question de... Alors oui, le commun ne se résume pas à l'entreprise. Ça, on est entièrement d'accord avec... Je pense que si le commun s'était résumé à l'entreprise, Pierre Dardot n'aurait probablement jamais préfacé mon livre. Puis on n'aurait pas discuté. Voilà. Non, donc très clairement. Là, l'objectif, c'était de passer d'une pratique du commun que Pierre Dardot voyait dans la coopérative argentine, dans la reprise de l'entreprise récupérée argentine. Il dit, il y a une pratique du commun là-dedans. J'avais dit, c'est contradictoire, c'est comment aller au-delà pour commencer à dépasser le rapport de propriété. Alors, il est dépassé où le rapport de propriété ? On a eu vous pourrez trouver sur le site de l'association Autogestion, par exemple autogestion.asso.fr, un débat que j'ai eu avec Emmanuel Dokès, son livre Voyage en misarchie, dans lequel lui défend la propriété du travailleur. On a la même base. Lui dit qu'il faut interdire la propriété dominante, c'est une propriété dont on n'a pas l'usage. Et lui, ce qui lui importait, c'était la question que le travailleur ait un droit sur l'entreprise. Et finalement, on est arrivé à cette conclusion, c'est-à-dire, on réinvente pas la poudre, il y a toujours un lien de propriété de facto, c'est-à-dire que les travailleurs qui sont là, ils ont la décision sur leurs outils de production, sur leurs actifs, etc. S'ils veulent les vendre, ils les vendent. Ça, c'est tout à fait possible. Mais la possibilité est ouverte d'un financement à 100%. Et je fais le pari que tout le monde préférerait financer 100% de son actif. C'est une simple question que je vous pose. Si je vous propose d'avoir 100 tout de suite, ou si je vous dis ben, il y a une autre solution, c'est vous prenez 80 tout de suite et vous auto-investissez 20, vous allez me dire je préfère la première solution. Voilà. Et c'est cette solution-là qui nous permet de dépasser le rapport de propriété au niveau de la propriété de l'unité de production. Donc là, on a l'émergence d'un commun productif dans lequel ce sont les travailleuses-travailleurs en tant qu'usagers de l'outil de production qui dirige, associés aux usagers. Alors, vous me faisiez part, effectivement, des consommateurs, et ça, c'est un point qui est essentiel, et ça, je vous l'accorde. Je défends, dans le dernier chapitre, qui est là-dessus, un droit de mobilisation des usagers des produits et services de l'entreprise qui est imprescriptible. S'ils le veulent, ils le font. Il y a un conseil des usagers, il y a un conseil des travailleurs et on fonctionne ensemble. On prend des décisions au maximum sur le consensus là-dessus parce que c'est essentiel. Pourquoi c'est essentiel ? Bah, d'une part, quand il y a oligopole, monopole, comme je l'ai dit, mais même en même temps, c'est un vecteur de restriction des rapports marchands. Il faut vraiment sortir du monde dans lequel on est. Bah, tiens, vous n'êtes pas content, cassez-vous, allez à la concurrence. Non, là, les usagers, là, les consommateurs deviennent usagers, deviennent citoyennes et citoyens et commencent à avoir leur mot sur l'entreprise, sur ce qu'il faut faire. Et peut-être, bah oui, lorsqu'il y a un oligopole, par exemple, je le prends dans le service de téléphonie, il y a téléphonie mobile, vous avez quatre opérateurs en France, peut-être que pour rationaliser ça, les usagers qui seront mobilisés demain, là-dedans, diront, on aura peut-être intérêt à fusionner ces quatre entreprises en une pour reconstituer un service public. Mais cette fois-ci, un service public réellement géré en commun, qui est réellement un commun, et pas à une entreprise qui appartient à un État qui demain pourra reprivatiser.
Ouais, bah je reprends alors, s'il n'y a pas de... moi, j'avais... C'est de nouveau... sur les scopes, est-ce que, comme vous semblez avoir une bonne connaissance de la situation des scopes aujourd'hui, est-ce que vous pourriez nous brosser un petit tableau des difficultés que rencontrent les scopes et de qu'est-ce qui fait la différence entre les scopes qui marchent et on va rester dans un truc... qui marchent juste, dont la vie perdure. Et peut-être qui ont aujourd'hui un système qui est dévoyé et qui finalement rentre dans le jeu, je ne sais pas. Mais en tout cas, entre celles qui ont des difficultés, qui peut-être périclitent, et je n'ai pas même l'ampleur des chiffres, mais que vous avez peut-être des scopes qui finalement périclitent, et celles qui durent, et est-ce que pour durer finalement, elles sont obligées de se plier à un jeu qui font qu'elles perdent un peu de leur nature ? Parce qu'effectivement, on perçoit bien que le modèle des scopes, il est très enviable, mais on a le sentiment que cette petite île au milieu de l'océan capitaliste fait qu'au final, on s'épuise peut-être dans ce système-là, dans les scopes.
Ça permet d'en préparer d'autres. Très bien. Oui, alors c'est une question, c'est une très très grosse question que vous abordez là et qui est passionnante, pour être clair. Alors, je vais y répondre de différentes façons. Déjà, en parlant scope, c'est le terme français de coopérative de travail. Dans le monde, on a une tendance à parler de coopérative de travail. Je vais vous citer un chiffre tout de suite. Dans le monde, vous avez 250 millions de personnes employées dans une coopérative et seuls 4 millions sont employés dans une coopérative de travail. Donc, les coopératives de travail, c'est minoritaire dans l'ensemble des coopératives. Vous avez d'autres coopératives. Vous avez des coopératives de consommation. Elles ont été largement à la mode à la fin du 19e siècle et pendant la première partie du 20e siècle. Vous avez des coopératives bancaires. Vous savez que la moitié des dépôts en France bancaires sont dans des coopératives qui sont des coopératives d'utilisateurs. C'est-à-dire que les membres ne sont pas les travailleurs, ils le sauraient, mais ce sont souvent vous et moi, qui sommes membres de cette coopérative. Vous savez, le fameux slogan du Crédit Mutuel, une banque qui appartient à ses clients, voilà, c'est l'illustration. Vous avez ensuite les coopératives agricoles. Et cerise sur le gâteau, vous avez ce qu'on appelle les coopératives de commerçants, c'est-à-dire des entreprises qui sont des entreprises capitalistes qui se fédèrent pour créer leur coopérative. En exemple, Leclerc, Intermarché, Optique 2000, ce genre de choses. Voilà pour le paysage coopératif. Donc on voit que la coopérative de travail est très minoritaire. Pourquoi ? Pourquoi ? Parce qu'on se heurte en permanence à la question du financement. C'est-à-dire on se retrouve sur le marché, ce sont des gens... Bon, je vais y revenir sur le cas français, on va en reparler. Mais globalement, la véritable question est là, alors que les coopératives d'usagers ont résolu le problème d'une façon différente, qui consiste à dire on se regroupe en tant qu'usagers, l'union fait la force et on commence à acquérir un capital collectif qui va nous permettre. Mais problème de la coopérative d'usagers, j'embauche des salariés, les salariés sont en position subordonnée, c'est pas la même chose qu'une entreprise capitaliste quand même, mais ça y ressemble quand même beaucoup. Voilà. Coopératives de travail. Alors maintenant, les coopératives de travail, la France est un petit peu l'initiateur de ces coopératives de travail. Hein. Les premières associations ouvrières de production, on les a vues en 1831 en France. Une association de menuisiers, après s'est rajoutée une association de bijoutiers. Et on s'est aperçu, en fait, alors que ces entreprises ne fonctionnaient que lorsqu'elles travaillaient avec, je dirais, des travailleurs qui ont une qualification, voilà, qui ont une qualification, un métier à vendre et tout, qui sont capables de se regrouper pour autrement, ça a été très très difficile. Ce qui fait qu'en fait, il y a une séparation entre le mouvement des associations ouvrières de producteurs et le mouvement ouvrier qui s'est opéré, allez, schématiquement, à la fin du 19e siècle, hein, très clairement. Maintenant, sur le mouvement des coopératives de travail. Alors, ce mouvement des coopératives de travail en France, ce mouvement des AOP et puis SCOP, qui s'appelait, on s'appelle SCOP à partir de 1936 à peu près, c'est à cette date-là, c'est un développement qui va être régulier dans le temps. C'est-à-dire qu'on voit, bon, j'en parle beaucoup dans mon deuxième livre, « Travailler autrement, les coopératives », je retrace cette histoire, avec des périodes de plat. Alors, on est sorti en l'an 2000 à peu près d'une période de plat du mouvement des scopes. C'est-à-dire qu'on avait un mouvement avec des grosses scopes et des grosses scopes qui ont périclité. Des nouvelles sont arrivées de plus petite taille. Et puis finalement, ça s'équilibrait en nombre de salariés dans le mouvement des scopes en France. Et c'est à partir du 2000 qu'on a vraiment une très, très belle progression. Alors aujourd'hui, on en est où ? Ben, aujourd'hui, le mouvement des scopes, c'est à peu près 60 000 travailleurs, 60 000 salariés. C'est 2500 scopes, et je mets dans les scopes les SIC, sociétés collectives d'intérêt collectif, qui en général sont regroupées. Ce sont des sociétés qui sont... Alors, est-ce que des scopes ne font pas faillite ? Réponse, oui. Des scopes font faillite. La scope, ce n'est pas un visa tout risque, quoi que ce soit. Il y a des scopes qui font faillite, comme les autres entreprises. Bonne nouvelle, elles sont plus résilientes que les autres entreprises. C'est-à-dire que, grosso modo, si on crée aujourd'hui une entreprise, une scope ce soir, on a à peu près 3 chances sur 4 d'être encore en vie dans 3 ans. Pour une entreprise classique, c'est 2 sur 3. Vous voyez une différence. Vous avez 22% des scopes qui ont plus de 22 ans. C'est seulement 18% des entreprises qui ont plus de 20 ans en France. Et vous allez me dire, ça peut être signal d'un mouvement vieillissant. Ben non, ce n'est pas un mouvement vieillissant. La progression de l'emploi des scopes, alors cette année a été exceptionnelle, 2017 par rapport à 2016. 2017 par rapport à 2016, c'est plus 7,6% d'emploi. Comparez-les avec les taux de croissance dont on parle, qui sont plutôt de l'ordre de 1,5 à 1,6%. Donc c'est un mouvement qui marche, c'est un mouvement qui fonctionne, avec ses défauts, avec ses... Voilà. Alors ensuite, maintenant, dans les relations de travail, dans les scopes, comment ça se passe? Alors là, je vais vous dire, c'est très simple, j'en ai visité beaucoup. Il y en a qui ressemblent certaines à d'autres, mais il n'y en a aucune qui est identique. Vous avez de tout dans les scopes. Vous avez des entreprises dans lesquelles le sociétariat, tout le monde y accède, tout le monde est membre, avec des AG régulières, une véritable démocratie, ou tout au moins on le sent. D'autres où c'est un petit peu moins véritable. On a aussi le cas très classique de la reprise d'entreprise, et puis je dirais une espèce de banalisation de l'entreprise qui tient finalement ses AG annuels et puis ses plans-plans, puis il y a une petite équipe de direction qui est régulièrement reconduite, ça existe aussi. Et puis vous avez aussi le pire, alors ça c'est le passé des scopes plus que l'avenir je pense, des entreprises dans lesquelles le sociétariat est minoritaire. C'est-à-dire vous avez l'encadrement qui est sociétaire et qui embauche des gens qui ne sont pas sociétaires et vous avez une majorité. Ça existe aussi, c'est une réalité du mouvement des scopes. Donc vous voyez que c'est un mouvement qui est extrêmement multiforme. Évidemment, ces dernières scopes, ce n'est pas du tout ce qui nous intéresse. Ensuite, je vous ai parlé d'un mouvement que j'estime de dégénérescence coopérative, c'est-à-dire dans lequel la scope perd ses valeurs. Typiquement, l'exemple le plus criant, à mon sens, dans le monde, c'est Mondragon. Alors, j'en parle j'en parle dans tous mes livres d'ailleurs, parce que c'est quelque chose d'assez exceptionnel. C'est une expérience qui a commencé en 1950, ça se trouve au Pays Basque. C'était clairement une initiative de résistance au franquisme, hein, c'est comme ça que je le positionne. C'est d'ailleurs très nationaliste, hein, comme environnement. Et ils ont créé des coopératives de travail à un endroit qui est Mondragon, à Rachaté. Et puis, ils ont créé une banque pour financer leur truc. Et puis après, ils ont rendu la banque, la mettre un petit peu de côté, parce que c'était un peu le chef de file pour toute une série de raisons. Peut-être qu'on en débattra. Créer un groupe. Aujourd'hui, c'est 100 coopératives, à peu près une centaine de coopératives, qui emploient 70 000 personnes. Donc, une trajectoire absolument extraordinaire. Donc, j'ai beaucoup, beaucoup de respect pour cette expérience. Il se trouve que, ils ont tellement réussi que lorsqu'il a fallu s'étendre à l'international, racheter des entreprises, il y avait un tel matelas capitalistique que c'était quasiment impossible. Alors, je ne rentre pas dans la technique entre les parts sociales, les réserves impartageables et autres, mais grosso modo, pour faire très simple, c'était quasiment impossible de faire rentrer, de transformer les salariés d'entreprises rachetées. Bon, par exemple, Brandt a été racheté par une des coopératives de Mondragon qui était Fagor. Ils n'ont jamais pu donner le sociétariat aux salariés français. Donc, on se retrouve dans une situation, c'est ce que j'expliquais, dans lequel, lorsque l'entreprise réussit, le capital, il a beau être second, à un moment donné, il parle, il s'exprime, et puis il y a une espèce de banalisation. Je le fais comme ça, sans absolument aucun point de vue moral sur ce groupe. Encore une fois, je pense que c'est une expérience extraordinaire que ce groupe Mondragon, pour laquelle j'ai beaucoup de respect. Mais c'est une réalité, et c'est l'intérêt, effectivement, de penser l'entreprise en dehors de la notion de capital, de penser une entreprise sans capital. Je crois que c'est quelque chose qui est essentiel. Mais c'est un travail à parcourir.
Ma question porte sur la transition. Comment vous verriez la transition entre le système économique actuel et puis un système économique que vous décrivez qui crée le Fonds socialisé d'investissement? Comment il se crée? Est-ce qu'on exproprie les propriétaires actuels, c'est-à-dire les actionnaires? Comment ça se passe dans une économie qui est ouverte, c'est-à-dire où il y a libre circulation des capitaux? Je ne vois pas très bien comment tout ça s'articulerait.
C'est aussi une très grosse question, dites tous, là, ce soir. Donc, je crois avoir commencé à aborder cette question de la transition dans mon premier livre, Coopérative contre capitalisme, édition Sileps. Et c'est là, effectivement, que j'ai parlé pour la première fois du Fonds socialisé d'investissement. Le fonds socialisé, en gros, ce livre, il était un petit peu structuré comme suit. Je disais, tiens, il y a des reprises d'entreprises en coopérative par les salariés. Finalement, c'est un système qui marche pas si mal que ça. Pourquoi la gauche n'en fait pas un objectif stratégique? Ok, c'est des expériences sympathiques, on les soutient, mais il faudrait peut-être aller plus loin, parce qu'en fait, ces travailleurs, lorsqu'ils reprennent leur entreprise en scope, ils posent à nouveau la question de l'appropriation sociale. C'est ça qui m'intéressait. Et donc, c'est là la première fois que j'ai amené la question du fonds socialisé d'investissement en disant c'est tout simplement une cotisation à la charge de l'entreprise, donc une cotisation dite patronale, qui va pomper les profits des entreprises de façon à les transformer, précipiter, leur transformation en entreprise. Alors à l'époque, je parlais d'entreprise coopérative, j'en étais sur ce schéma-là. Aujourd'hui, avec le dernier livre, Au-delà de la propriété, je vais effectivement beaucoup plus loin, puisque je dis le rôle du FSI, c'est même de supplanter le capital. Alors, quel scénario? Je pense, il y en a plusieurs. J'en vois trois. Je vois le premier, qui n'est pas forcément celui qui est à ma faveur, qui est celui d'une crise majeure du capitalisme. Faut comprendre que, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais dans la formule macroéconomique du profit, la composante endettement des ménages et des États est quelque chose de très important. Donc le capitalisme est une machine qui fabrique de la dette d'une façon fabuleuse. Et on a connu une crise de la dette incroyable avec les subprimes en 2008 qui nous a amené dans la récession de 2009. Les États sont intervenus avec des politiques contracycliques, aujourd'hui à un niveau d'endettement. Et c'est vrai, on s'interroge, si une nouvelle crise se produit, est-ce que les États auront cette capacité d'intervention? Ce n'est pas moi qui ai dit ça, c'est par exemple Nouriel Roubini qui l'a exprimé, je crois, il y a un mois à peu près dans Les Échos. Alors lui, il prévoit, Bon, je ne vais pas aller dans son pessimisme habituel. Il prévoit toujours des crises, lui. Il y a des tas de choses, ça se produit pas. Mais bon, celle des subprimes, il l'avait prévu. Donc, on va lui accorder ça. Lui, il en prévoit une majeure pour 2020. Et il pose cette question, il dit, est-ce que les États auront les moyens, cette fois-ci, de réintervenir comme avant? Bon. Donc, c'est déjà un premier élément qui dit, ben, il y a un moment donné où il faut sortir de cette propriété productive. Et là, la question se posera vraiment avec acuité. Pourquoi ? Bah parce que les entreprises ne vaudront plus un clou. Donc la question de leur reprise va se poser. Alors je suis en train effectivement de travailler sur ces scénarios. Il y a un deuxième scénario que je vois. C'est le scénario, je vous ai cité tout à l'heure Emmanuel Dockès dans son livre « Voyage en misarchie », édition du Détour. Lui, il dit, bon, bah on verrait bien une coalition misarchiste, comme il l'appelle. Donc, qui, alors il y a toute une série de choses dedans, mais il y a un point qui me paraît essentiel, c'est l'abolition de la propriété dominante. L'abolition d'une propriété dont on n'a pas l'usage. Donc, je ne peux pas être propriétaire d'une entreprise dans laquelle je ne travaille pas. Je ne peux pas être propriétaire d'un appartement ou d'une maison que je n'occupe pas. Je pense, à titre personnel, que c'est une démarche qui est assez intéressante. Je vois que dans la société, il y a toute une série d'aspirations qui ne peuvent pas trouver débouché dans le maintien des sociétés de capitaux. Je vous ai parlé de la socialisation du revenu. Ben, c'est une aspiration de plus en plus forte, mais qui est contradictoire, mais fondamentalement, avec le maintien de ces entreprises de capitaux. Je vois qu'il y a des aspirations écologiques qui existent. On parle par exemple du zéro déchet. C'est un autre sujet, mais le zéro déchet. Je ne sais pas, je pense que beaucoup d'entre vous ont dû entendre parler de ce mouvement qui consiste à dire, bah oui, ce n'est pas seulement du déchet qu'on va recycler, c'est le meilleur déchet, c'est celui qu'on ne produit pas. Donc, mais quand on écoute la logique du zéro déchet, on s'aperçoit que c'est l'agroalimentaire qui s'effondre. Donc, un problème, c'est de la valorisation du capital en moins. Donc, c'est vraiment un gros secteur. Il faut voir que le capital n'a cessé ces dernières années d'étendre son influence sur toutes les sphères de l'économie et d'en rajouter, d'ajouter. Là, on est un facteur de crise énorme. Puis le deuxième, qui nous rejoint à la première question, que vont devenir les travailleuses et travailleurs de l'agroalimentaire? Et donc là, la question de la socialisation du revenu se repose encore avec plus. Donc, je pense que cette idée de coalition misarchiste, comme il l'appelle lui, n'est pas absurde. C'est-à-dire commencer à penser une coalition de mouvements, de gens qui se rendent bien compte que le maintien des sociétés actionnariales, ça ne marche pas avec leurs aspirations. Et même si leurs aspirations sont contradictoires. Je peux ne pas être d'accord avec le zéro déchet, mais d'autres sont d'accord avec. Et puis, ça fait rien parce qu'eux savent que pour que leur idée avance, c'est la même chose. Vous avez parlé de Bernard Friot tout à l'heure. Certains adorent les idées de Bernard Friot. D'autres sont relativement réticents. Il y a une chose que je sais, c'est que de toute façon, même ceux qui sont réticents avec d'autres propositions, ils ne peuvent pas avancer avec les entreprises actionnariales. Bon, Bernard Friot est très clair, il a compris que dans son système, il n'y avait plus d'actionnaires. Donc voilà, ça, c'est les choses, c'est simple. Donc, il y a bien la nécessité d'une coalition. Alors, pourquoi ne pas lancer cette coalition? Est-ce que demain, elle sera majoritaire? Ça, je n'en sais rien. Mais c'est la deuxième hypothèse. Et la troisième hypothèse, c'est une hypothèse qui est peut-être plus en prise avec la réalité politique d'aujourd'hui. Quand on regarde la politique, on s'aperçoit que ça va dans tous les sens. Moi, je suis assez effaré de ce qui se passe en Europe. Ça me fait un peu penser à l'entre-deux-guerres. Hein. On a des mouvements autoritaires d'un côté, on a au contraire du progressisme de l'autre, et j'ai le sentiment qu'il y a une espèce de renouveau social-démocrate qui existe aujourd'hui. Quand je dis renouveau social-démocrate, je ne parle pas de la social-démocratie traditionnelle. En ce moment, elle est très, très mal en point, mais c'est ce que je vois quand je vois, par exemple, Bernie Sanders ou Christina Cortez aux États-Unis. Vous avez les socialistes, les démocrates socialistes américains, c'est devenu une très grosse force. Vous avez Jeremy Corbyn, voilà. Vous avez des mouvements comme Podemos qui apparaissent, des mouvements en France, voilà. Et ces mouvements ont, en général, je dirais, alors eux ne font absolument pas de l'expropriation des actionnaires leur mantra. Je pense qu'ils mixent des politiques keynésienne et des politiques post-keynésiennes. Je ne vous dirai pas ce que je pense des politiques keynésiennes, mais les politiques post-keynésiennes, elles m'intéressent. C'est-à-dire des politiques dans lesquelles on dit on va augmenter la part des salaires dans la valeur ajoutée, on va augmenter les salaires réels, et les post-keynésiens estiment que c'est quelque chose qui va relancer la demande et que fondamentalement, les entreprises se porteront très très bien avec ça. Personnellement, je ne le pense pas. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'en remontant la part des salaires dans la valeur ajoutée, c'est un facteur de crise. Et je pense qu'il y a des moyens, effectivement, de faire des ponts entre des stratégies, je dirais, social-démocrates à vocation majoritaire, vers des basculements de la société, de société sans actionnaire. Voilà. Deuxième volet de la question, c'est peut-être un... Alors là, je vous ai répondu du point de vue politique. Le deuxième est un petit peu plus technique. Bon, c'est des choses que je suis en train actuellement de développer et écrire sur l'intervention du FSI pour supprimer le capital. Pour le... Voilà, bon, c'est très, très technique, mais c'est quelque chose qui se fait et peut se faire sans aucun problème. Voilà. Mais je précise que mon livre, pour ne pas être déçu, au-delà de la propriété pour une économie des communs, est un livre qui se place d'emblée dans le post-capitalisme. C'est ce que j'ai voulu faire après le premier livre, Coopérative contre capitalisme. Voilà, d'emblée dans le post-capitalisme. Je vais revenir prochainement sur la transition.
Dans une entreprise classique aujourd'hui, je profite que j'ai du micro pour poser une question. Dans une entreprise classique aujourd'hui, ce qui pousse à lancer un produit ou à investir, c'est l'espérance future de profit. Dans le cadre de gestion de communs, comment va se prendre la décision de lancer un produit ?
Alors, je dirais qu'aujourd'hui, il y a un petit peu une mystification de la question de la liberté d'entreprendre. J'étais intervenu dans une tribune, je ne sais pas si vous avez vu la tribune de toute une série d'intellectuels, dont Michel Onfray, qui disait « on commence par le bien commun et on finit par le comité de salut public ». Sur le terrain, attention, les nouvelles discussions qu'il y a sur les finalités de l'entreprise portent atteinte aux droits de propriété et au final, on va dans les décors, dans le totalitarisme, etc. Et un des points de la tribune qu'ils avançaient, c'était la question de la liberté d'entreprendre. Alors j'étais intervenu en contre en disant là-dessus, mais attendez, on mélange tout. La liberté d'entreprendre, aujourd'hui, elle n'existe que si on a de l'argent, si on arrive à convaincre un capital risqueur de nous suivre pour un produit nouveau, une nouvelle société, etc. Mais les citoyennes et citoyens lambda n'ont pas aujourd'hui les moyens de lancer leur entreprise, sauf à faire appel à des aides, des machins. Et puis, c'est en général, quand on parle de liberté d'entreprendre, c'est souvent pour faire de l'entreprise sous-traitante avec un statut d'auto-entrepreneur. Donc, alors, quand on est à l'inverse de la socialisation du revenu, là, c'est vraiment de la protection sociale complètement bradée, épouvantable. C'est ça, la réalité d'entreprise aujourd'hui. Dans le cas, dans la société de l'économie des communs telle qu'elle est, qu'avons-nous à notre disposition ? Nous avons n'importe quelle personne ou groupe de personnes peut dire « je veux démarrer mon entreprise ». Si je veux démarrer mon entreprise, qu'est-ce qu'il me faut ? Il faut que j'arrive à financer l'actif du départ. Donc là, je vais m'adresser aux banques socialisées qui elles-mêmes sont soutenues par un fonds socialisé d'investissement qui va sans doute mettre de l'argent dans les pépites nouvelles, pour financer de la recherche et développement, financer de l'innovation, etc. Donc faire du capital risque socialisé. J'ai ensuite, pour démarrer, aujourd'hui, quand je démarre, pour me payer, je ne sais pas comment je me paye. Le nombre de créateurs d'entreprises qui disent « bon, j'ai mis un an, deux ans à commencer à tirer un SMIC, etc. » Non, là, vous avez un outil de socialisation de l'investissement. Alors, je ne rentre pas dans les détails, mais vous avez une proposition de péréquation de la richesse disponible qui permet de garantir à toute personne qui est en poste un revenu dès le départ. C'est-à-dire qu'en fait, il y a une espèce de dichotomie entre le comportement de l'unité marchande dans laquelle on est et puis son propre revenu qui intervient. Et donc, d'office, il y a la possibilité d'avoir des revenus. Évidemment, on va contribuer, on va bénéficier du pot commun au départ en espérant que cette entreprise progresse et demain remettra au pot commun pour les autres entreprises. Donc voilà, on a, je dirais, un cadre qui, au contraire, est extrêmement favorable à la liberté d'entreprise, à la fois individuelle, à la fois collective. Il ne s'agit pas d'imposer forcément qu'on soit en groupe pour entreprendre. On peut aussi entreprendre seul, mais... Et là, j'ai dans un cadre de non-exploitation, ça c'est très important. Donc très clairement, quand d'autres personnes rentrent, elles ont leur droit dans la société de parler là-dessus. Et puis très clairement, oui, ça n'est pas la société des milliardaires que souhaite Emmanuel Macron. C'est une société de liberté d'entreprendre et pas de milliardaires.
Qu'est-ce qui fait que le fait d'emprunter, je mets des guillemets, à ce fonds de solidarité, non, de fonds de socialisation, supprime la propriété? Quelle est la différence par rapport à un emprunt, par rapport à une banque?
Je vais expliquer. L'entreprise aujourd'hui a deux moyens de se financer. Elle a le financement par fonds propres et le financement par emprunt. Le premier acte de fondation d'entreprise capitaliste, c'est le capital. On se réunit en bande, on est 10 autour de la table, et puis on va mettre chacun au pot. Et puis, on va voir l'actif du bilan, donc ce que possède l'entreprise, un compte en banque, qui est le compte en banque de l'entreprise, alimenté par les apports des actionnaires initiaux. Et en contrepartie au passif, on va voir le capital social. On est 10, on a mis chacun 1 000 euros, on est chacun propriétaire de 10% d'un capital de 10 000 euros. Voilà. Bon. Et puis l'entreprise va évoluer dans le temps et va faire du bénéfice. Donc les bénéfices vont se rajouter à ce capital et ça forme les fonds propres. Lorsque vous distribuez un dividende, ça part des fonds propres et ça part des liquidités. Voilà. Et puis il y a l'autre mode de financement. Peut-être que nos 10 000 euros, ils ne suffisent pas. Donc, on va aller voir une banque pour démarrer. Puis, on va dire, tiens, coucou, vous ne voudriez pas me prêter un autre 10 000 euros, là? Imaginons qu'on ait trouvé une banque qui nous dise oui. Bon, je suis déjà dans une société de rêve, là. Je vois que certains connaissent et comprennent qu'il y a un petit côté ironique là-dedans. Mais bon, donc, imaginons que j'ai trouvé une banque qui me prête 10 000 euros. Ben, la banque, elle n'a pas le même rapport que les actionnaires vis-à-vis de l'entreprise. La banque, elle a un rapport juste de créancier. C'est-à-dire qu'elle n'intervient pas dans la gestion. C'est un contrat qui dit « je vais rembourser ce montant petit à petit dans le temps, avec des intérêts, mais la banque n'intervient pas dans la gestion de l'entreprise. » L'intérêt du système socialisé de financement, c'est d'avoir en face de nous des acteurs qui n'interviendront pas dans la gestion de l'entreprise. Alors, bien entendu, ça ne veut pas dire que on dira toujours oui ou que ça marchera toujours. C'est toujours l'exemple que je prends. Je dis, franchement, vous avez plusieurs... Alors, c'est très important d'avoir plusieurs banques en face de vous. Banques socialisées, encore une fois. C'est des communs productifs aussi. Ce ne sont plus des banques privées. Mais pourquoi? Parce que l'investissement, c'est une question d'opinion sur le futur. Et le futur, il nous est inconnu. Donc, on peut avoir des opinions différentes. Et je pense que si une entreprise se crée et puis elle cherche à avoir des financements pour se créer, sur son projet, si elle fait 10 banques et qu'au bout de 10 banques, on lui dit non, il n'y a pas, alors qu'il y a les outils pour, du côté du fonds socialisé d'investissement, il y a des outils pour faire de l'investissement, recherche et développement, des fonds dédiés. Si au bout de 10 banques vous disent non, c'est peut-être que votre projet il est vraiment pourri. Si par contre, il y en a une qui dit oui, oui, c'est que c'est faisable. Mais il n'y a pas de rapport de subordination là-dessus. Voilà, je dirais, la qualité que je vois au financement par emprunt, encore une fois, par emprunt par rapport à un système socialisé de financement qui est un commun géographique, qui est un commun de l'ensemble de la population, qui est tout sauf une banque privée, qui est tout sauf des porteurs d'obligations.
Je voudrais comprendre, parce que vous parlez très, très abondamment et très vite pour mes neurones, j'ai un petit peu de mal à suivre quelquefois. Est-ce que vous avez dit que les coopérateurs, que les travailleurs, que seuls les travailleurs étaient coopérateurs ou pas? Je m'excuse, ce n'est pas ce souvenir, parce que j'ai en filigrane la question de l'héritage, de la transmission des participations prises. C'est la question, c'est ça, c'est la question de la transmission de la participation prise au sein de l'entreprise qui est sous-jacente à cette question. Est-ce que je suis claire dans ma question?
Je crois. Mais peut-être que vous allez me dire que j'ai répondu à côté, donc c'est que, voilà, on va voir. Oui, alors, dans ce commun productif, on dépasse la coopérative, d'accord? Donc, quand on dit tous les travailleurs, tous les travailleuses sont coopérateurs, en réalité, ils ne sont plus coopérateurs parce qu'ils ne sont plus propriétaires de l'entreprise. Vous voyez la nuance? Quand je suis dans une SCOP, parce que je suis sociétaire, je suis copropriétaire de mon entreprise. Là, il n'y a plus ce rapport. C'est simplement le statut de travailleuse et de travailleur qui fait qu'on est au pouvoir, qu'on dirige l'entreprise, en collaboration éventuellement avec les usagers. Mais c'est ce fait-là qui est fondateur. Voilà. Et voilà. Vous venez d'amener le deuxième point que vous apportiez, c'était la question effectivement de l'apport financier. Alors, encore une fois, et je l'explique dans le livre, il ne s'agit pas d'interdire l'apport personnel. On a pris l'exemple tout à l'heure, j'ai dit, tiens, si jamais on s'adresse à 10 banques, et puis que toutes les 10 banques refusent, qu'est-ce qu'on fait ? Bon, on n'interdit pas que les gens mettent leur argent personnel, je veux dire, on est dans une... Simplement, je raisonne en disant qu'à partir du moment où il y a un secteur financier socialisé, on n'a pas forcément envie de mettre son argent personnel et on va utiliser ces lignes. Donc, d'office, la question de propriété ne se pose pas. Mais c'est vrai que si on le finance sur ses propres deniers, la question de la propriété réapparaît quelque part. Mais c'est une propriété dont on a l'usage. Donc, ce n'est pas non plus quelque chose d'aberrant. Mais je ne pense pas que ça va se produire beaucoup. Voilà.
Et dans ce que vous avez développé, vous avez, en termes de banque socialisée, vous n'avez pas évoqué la mutualité. La mutualité est une forme de socialisation, qu'elle se dirige vers une assurance, qu'elle se dirige vers le financement ou des choses comme ça. Et c'est une situation dans laquelle il n'y a pas de propriété. Dans une mutuelle, on est sociétaire, point barre, et on n'a pas de capital de... Est-ce qu'il ne serait pas tout simplement possible de monter des vraies banques mutualistes qui ne seraient pas sur les modalités d'un enrichissement ? Et j'avais une autre question qui est un peu à côté. Quand vous parlez des communs, qu'est-ce que vous faites de tous ces mouvements comme les réseaux d'échange de savoir, par exemple, ou les monnaies fondantes, toutes ces choses-là qui font que... la monnaie sert uniquement à un échange à un moment donné et ne permet pas une capitalisation.
Votre question est très pertinente sur la mutualité parce que c'est justement là-dessus en ce moment j'avance. La notion d'économie mutualiste, je ne l'ai pas encore placée. Mais vous avez parfaitement raison. C'est-à-dire que le propre d'une société d'assurance mutuelle, c'est enfin, à l'origine, les choses ont bien changé depuis, mais parce qu'il y a des réglementations, etc., etc. On leur exige maintenant des fonds propres, mais l'origine de la mutualité, c'était vraiment celle-là. C'était de dire... On se regroupe un certain nombre. En général, c'est pour faire de l'assurance au départ. Donc, on sait qu'il va y avoir de la casse et on va mettre une cotisation raisonnable de façon à couvrir la casse. Et éventuellement, si jamais il y a plus de casse que prévu, on refera un appel de capital à l'ensemble des sociétaires de façon à couvrir, l'accident, la casse qu'il y a eu à un moment donné. Et donc là, on a des sociétés très intéressantes qui sont des sociétés qui fonctionnent avec ce que j'appellerais un capital a posteriori. C'est-à-dire qu'on ne libère pas le capital au départ comme on l'a fait dans la société privée ou dans la société coopérative, mais c'est a posteriori que ça se fait. Et effectivement... L'unité productive vers laquelle je tends m'amène à une mutuelle économique. Et vous posiez la question des banques, je crois que c'est vous-même qui l'avez dit, c'est très intéressant. Lorsque la coopération bancaire s'est lancée en Allemagne dans les années 1840, et vous avez deux fondateurs, Schulze-Delitzsch et Raiffeisen. Schulze-Delitzsch, lui, il est plutôt pour faire de la banque coopérative. Il s'inspire un petit peu de ce qui se fait à Rochdale en Angleterre. Donc, il faut un capital. Et Raiffeisen, ça n'a rien à voir avec les Raiffeisen d'aujourd'hui, hein, mais je reviendrai sur les banques Raiffeisen que vous pouvez connaître à l'étranger. Mais Raiffeisen, le personnage qui est un Allemand, lui, il défend l'idée d'une banque sans capital. Avec, je dirais, les sinistres qui sont assurés collectivement par l'ensemble des membres. Donc, c'est une approche qui est vraiment très intéressante et on évolue. Et moi, j'évolue de plus en plus vers ça, notamment, vous parliez de la transition, je travaille effectivement là-dessus. Et je m'aperçois qu'on va vers une économie mutualiste là-dessus. Alors, je n'ai pas cité le nom, mais vous avez parfaitement raison. Alors, juste un petit truc sur Raiffeisen. Attention, Raiffeisen, là, je parle du personnage. Vous avez ensuite une banque Raiffeisen qui s'est montée en Suisse, donc pas en Allemagne, et puis d'autres banques Raiffeisen dans d'autres pays, c'est simplement l'hommage à cette personne. Hein. C'est des choses différentes. Ce sont des banques coopératives, d'ailleurs, toutes des banques coopératives, un peu comme le Crédit Mutuel. Maintenant, du point de vue des communs, oui, alors, réseaux d'échange de savoir, mais ça, ce sont des communs, bien sûr. Ce que j'appelle, moi, des communs associatifs, c'est des communs qui se montent sur des bases volontaires pour partager toute une série de ressources. Voilà. Et on en a une, notamment. On en a aussi d'autres qui existent, qui sont sur les monnaies locales. Alors, les monnaies locales, très sincèrement, je ne sais pas quoi en penser. Déjà, il y en a deux, de deux types différents. Il y a ce que j'appelle les monnaies de sel, de systèmes d'échange local, qui sont, elles, pour moi, des monnaies relativement modernes, en sens que ce sont des monnaies de crédit débit qui se créent au fur et à mesure des besoins. Alors, on voit beaucoup ces sels se monter dans les périodes de grosses crises économiques. On l'a revu en Argentine lors de la crise de 2002. On en a vu en Grèce, dans la ville de Volos. Et puis, c'est vrai que quelques années après, on ne les revoit plus. C'est assez marrant. Les entreprises récupérées en Argentine, elles continuent et elles montent, elles progressent. Tiens, d'ailleurs, je vous précise que le 21 novembre à Paris, rue de Malte, vous avez une conférence donnée par Carlos Martinez, qui est une des personnes en Argentine qui s'occupe du mouvement des entreprises récupérées, qui pourrait nous donner beaucoup d'informations là-dessus. Donc, 21 novembre, 19h, à Paris, au 40 rue de Malte, Malte Rouge, association autogestion, vous trouverez les coordonnées. Si le mouvement des entreprises récupérées argentines est quelque chose que vous suivez particulièrement. Bon, je referme la parenthèse. Mais l'Argentine, le mouvement des entreprises récupérées progresse. Le mouvement des sels en Argentine, il a périclité au moment où l'Argentine est repartie. Voilà. Ensuite, l'autre forme de monnaie locale, c'est la monnaie locale qui est la contrepartie de l'euro qu'on émet sur une zone donnée. Alors, celle-là, on les voit de plus en plus. À chaque fois que je vais dans une réunion, je vois les gens qui payent avec leur monnaie locale et tout. Là, encore une fois, j'ai beaucoup de mal, mais ce sont des pratiques. Et comme toute pratique, elles sont riches et elles sont libres. Ça, je crois que c'est important de le dire. Ce sont des communs, ça, c'est de ce point de vue, vous avez tout à fait raison. On sait, on avait fait un reportage sur autogestion.so.fr sur une des premières monnaies locales dans une villa brésilienne, enfin une villa, ça s'appelle une favela brésilienne. C'était un outil qui vraiment a permis de réinsérer la favela dans l'environnement économique local grâce à cette monnaie locale. Sur nos villes en France, pour l'instant, j'ai du mal à le voir. Voilà, mais c'est une question d'opinion personnelle et encore une fois, ce sont des expérience que de toute façon nous nous devons de respecter. Voilà.
J'ai une autre question. Si j'ai bien compris, les unités de production que vous avez décrites sont sur un marché. Il y a un marché, il y a des prix, il y a une concurrence entre ces unités de production. Est-ce que cette concurrence, elle est ouverte à des entreprises qui ne sont pas gérées de la même façon, des entreprises étrangères dans un pays qui ne mettraient pas en œuvre les mêmes changements? Et dans ce cas, comment elles peuvent lutter contre des entreprises qui ont des objets sociaux complètement différents des leurs? Voilà, je ne vois pas bien la subsistance de mécanismes de marché me paraît un peu contradictoire avec le changement envisagé.
Plutôt que d'entreprises qui sont dans le marché, je préfère dire une société dans laquelle il y a des relations marchandes qui persistent. Pourquoi je fais ce distinguo? Parce qu'en fait, on s'aperçoit qu'il y a toute une série de mécanismes qui amoindrissent totalement le marché tel qu'on peut l'imaginer dans sa violence totale. Ces trois mécanismes, quels sont-ils? Le premier, c'est la socialisation des revenus. C'est le fait que nos revenus, en tant que producteurs d'une unité autogérée, il n'est pas uniquement dépendant du comportement économique de notre unité de production. Il y a un phénomène de mutualisation qui existe. Ça, c'est le premier point. Donc, on baisse d'un cran. Deuxième chose, c'est la violence des investissements. Les investissements, aujourd'hui, on investit dans n'importe quoi, pourvu que ça rapporte, pour être gros. Là, on a au contraire un préalable de discussion citoyenne sur l'orientation des investissements. Donc, on a encore des marchandisés. Et puis, le troisième point que je vois, c'est sur les unités de production. Il y a un droit imprescriptible des usagers de se mobiliser. Alors, pour être clair, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si j'ai le restaurant du coin de la rue, bon, il y a le restaurant du coin de la rue, il y en a un autre. Il est bon, vous irez à celui qui est bon. L'autre, il n'est pas bon, vous irez moins. Et puis, c'est réglé. Mais lorsque on va s'apercevoir qu'une entreprise et les usagers vont se sentir un petit peu pris en otage vis-à-vis d'une entreprise qui a une position dominante, là, ils interviennent. ils interviennent pour donner leur mot. Et là, on a une rupture, encore une fois, avec une relation de marché. Parce que c'est plus « je suis pas content, je m'en vais, je vais à la concurrence ». Non, c'est « attention, on aimerait bien qu'on produise ceci avec tel mode de distribution, peut-être tel prix », et une discussion qui s'engage avec les travailleuses et travailleurs de l'unité de production. Donc, on sort des relations marchandes avec ça. À partir de ce moment-là, une fois que c'est dit, la question de la concurrence avec les entreprises étrangères. Alors, je suis en plein dedans, donc je vous le dis, en recherche. Effectivement, il va y avoir des moments où, de toute façon, on ne va pas vivre en autarcie. Il faudra se fournir auprès d'entreprises étrangères, et inversement, il faudra vendre à l'étranger. Ça, c'est une évidence. Mon seul propos est le suivant, c'est surtout ne regardons pas le capitalisme comme un système qui est hyper puissant. Je pense qu'on a tort. C'est un système qui est devenu ultra spéculatif, qui est extrêmement fragile. Et je pense là-dessus que surtout ne commençons pas à être en position d'infériorité par rapport à ça. Et je vais vous donner un deuxième élément de réflexion, c'est le mouvement coopératif. Le mouvement coopératif, il n'est pas parfait. Il a abandonné son idée de transformer le monde. Ça, c'est très, très clair. Mais aujourd'hui, il représente un poids en termes de chiffre d'affaires supérieur à l'ensemble des multinationales dans le monde. Il est plus puissant que l'ensemble des multinationales dans le monde. Et bien, ce mouvement coopératif, qui n'est pas sur des bases capitalistes, et bien, on s'aperçoit qu'il tient. Qu'il tient la route, que ces mouvements existent et que ça fonctionne. C'est pour ça que moi, sur ces questions-là, j'ai un point de vue qui est relativement pragmatique là-dessus, en disant tout n'est pas écrit. Il y a une chose qui est certaine, c'est qu'il n'y aura pas besoin de faire un mur, parce que quand il y a besoin de faire un mur pour se protéger, c'est qu'on est en position de faiblesse. Et je ne pense pas que nous soyons en position de faiblesse.
Je sens, par rapport à l'ambiance actuelle, une vague de scepticisme par rapport à tes derniers propos sur cet optimisme par rapport à ça. Je voulais poser une question, c'est est-ce que ces analyses, ces propositions ont été entendues dans des courants politiques qui sont censés vouloir changer le monde et amener l'ensemble de la population vraiment au pouvoir, enfin, un changement. Est-ce que ça, par qui ça a été, puisque bon, le livre il date cette année, est-ce que ça commence, est-ce que tu as été invité t'étais à l'université de Grenoble d'Attaque, par exemple, puisqu'on a participé à un atelier ensemble, mais est-ce qu'il y a eu d'autres ouvertures et de l'écoute et de l'intérêt par rapport à ça?
Alors d'abord, je n'ai pas un optimisme débordant, Fabienne, déjà pour être bien bien clair. Je ne sais absolument pas, je dirais, la probabilité forte qu'on aille dans le mur par, je dirais, l'impossibilité de juguler le réchauffement climatique, par, je dirais, l'atmosphère d'extrême droite qui règne en ce moment, dans lequel, je dirais, la faute, c'est toujours l'étranger, c'est toujours l'autre, c'est toujours celui qui est différent. Comme je vous le disais, il y a un parfum d'entre-deux-guerres que je retrouve dans la politique aujourd'hui. Donc, non, je suis tout sauf optimiste à l'heure actuelle. Je regarde juste les choses en me disant, bon, comment en sortir? Et maintenant, ça m'amène au deuxième... à la deuxième question, qui est la question de est-ce que ces propos sont entendus? Bon, alors d'abord, je ne suis pas seul. C'est-à-dire que je me situe dans un courant. Disons que le courant n'est pas défini aujourd'hui, ça c'est très très clair. Je vous parlais de la fameuse coalition misarchiste, oui, sauf qu'elle n'existe pas. Il faudrait peut-être la commencer à créer, commencer à avancer, ça c'est sûr. C'est un courant qui est récent. Il faut quand même voir. Mais en même temps, et là, je vais peut-être avoir un petit peu d'optimisme, regardez comment les choses se passent. Moi, je suis un vieux militant politique étudiant. J'étais étudiant. J'étais militant politique à cette époque. Vous voyez à peu près quel âge j'ai. Ça vous situe la période. Et puis, j'ai quitté la politique au début des années 80 parce que je ne m'y retrouvais plus. Et puis, j'ai fait ma vie professionnelle, comme d'autres, ok. Et puis, j'ai été frappé, et je voyais la gauche, qui n'intervenait finalement que sur les thèmes sociétaux, le thème de l'économie, de l'alternative, le thème de l'appropriation sociale était complètement gommé, parce que plus personne croyait, évidemment, à l'étatisation de l'économie, ça, c'était le grand mythe du XXe siècle. Et puis, on a commencé à voir des choses. Alors la première chose à saluer, c'est peut-être la taxe Tobin. Et ça, je le situe, d'autant plus que c'est aujourd'hui, c'est Attaque qui invite, ben oui, ben c'est une rupture qui commençait à être là, à dire. Et puis, on a d'autres idées qui sont arrivées avec l'altermondialisme. Tu parlais de choses récentes. Ben, c'est vrai, je me retrouve beaucoup dans les écrits de Pierre Dadot, Christian Laval. C'est 2014. Je vous ai cité Emmanuel Dockès. Ben, Emmanuel Dockès, c'est 2017. Mon bouquin, c'est 2018. On peut mettre Bernard Friot, même si on n'est pas d'accord, surtout, encore une fois, dans ce renouvellement d'idées. Pour moi, il participe de ce mouvement. Je ne suis pas forcément d'accord avec tout ce qu'il dit, mais on est dans cette perspective. Il y a toute une série d'aspirations, je pense, qui demandent à s'exprimer. Donc, pour répondre à cette question, non, je ne suis pas optimiste, forcément. Je regarde les choses telles qu'elles sont. Ce qui me rend peut-être optimiste aujourd'hui, c'est qu'on est en train de renouveler un certain logiciel politique. Et je pense qu'on commence à reposer la question de l'appropriation sociale. Et ce n'est pas seulement intellectuel. Quand on faut aussi regarder le chemin qui est parcouru du côté syndical. Regardez le nombre d'entreprises qui sont reprises par les salariés à l'initiative de sections CGT aujourd'hui, essentiellement CGT d'ailleurs. Attendez, la CGT, il y a 20 ans, on était à la recherche d'un repreneur, d'une solution industrielle, etc. Non, aujourd'hui, il y a un glissé qui est énorme, c'est que dans les sections syndicales, on dit, ben non, le meilleur repreneur, c'est nous-mêmes. Parce que ça va, les repreneurs qu'on a vus, qui après essorent la boîte, relicencient derrière et ont fait faillite et tout, on n'en veut plus. Donc la question de l'appropriation sociale se pose. Regardez l'Union syndicale solidaire. L'Union syndicale solidaire, dans son dernier congrès, remet l'autogestion comme objectif. On reparle de la double besogne du congrès d'Amiens. Je crois que c'est 1907, hein, si je ne dis pas de bêtises, 1907, l'Union syndicale solidaire dit qu'il faut remettre la question de la double besogne sur la table en disant que, d'une part, le syndicat se bat pour l'amélioration des conditions de vie matérielles et sociales du travailleur, mais aussi pour l'appropriation sociale comme étant la condition de son émancipation. Eh ouais. Donc on voit qu'il y a un courant qui commence à se... Il y a quelque chose qui commence à se construire. Voilà. Ce n'est pas de l'optimisme. Enfin, même chose, hein, quand je vois un renouveau social-démocrate, ça vaut ne pas être ma tasse de thé, ça me fait quand même vachement plus plaisir que de voir une Le Pen dans le paysage politique français. Voilà.
Que pensez-vous de l'évolution de la coopération agricole qui sont de, les coopératives agricoles sont devenues de véritables empires financiers où tout se dilue dans des kyrielles de sociétés, de filiales dont les coopérateurs ne maîtrisent plus rien.
Ça, j'en parle relativement peu dans ce livre, j'en parle beaucoup plus dans le Travailler autrement, les coopératives. Pour moi, il y a une différence fondamentale entre les coopératives de travail et les coopératives d'usagers. C'est que dans une coopérative de travail, parce qu'on travaille dans l'entreprise, bah fatalement, on est intéressé à la diriger, etc. Et le lien est beaucoup plus lâche dans les coopératives d'usagers d'une façon générale. La coopération agricole est assez amusante parce qu'en fait, elle a commencé, si je me regarde l'histoire, elle commence avec les fruitières. Et au départ, les fruitières, c'est en fait de la coopération de travail. C'est les agriculteurs qui se mettent ensemble pour faire un produit fini et le vendre sur le marché. Et puis, petit à petit, ils embauchent et puis ça devient une coopérative d'usagers. Et là, effectivement, on a tout ce que vous décrivez, c'est-à-dire le côté un petit peu lâche, on ne contrôle plus. Il y a des espèces de bureaucratie qui s'organisent et qui transforment petit à petit, au nom du bien-être des agriculteurs et tout, en grandes multinationales où, je prends par exemple Tereos, qui est spécialisé dans le sucre, hein, dans la betterave, sucrière. Moi, je m'interroge et je ne comprends toujours pas pourquoi Tereos va faire ses emplettes au Brésil, alors que ce rôle est d'écouler le produit betterave des agriculteurs. Comment des stratégies industrielles peuvent se développer comme ça ? C'est quelque chose qui est... Mais ça, je pense que c'est intrinsèque à la coopération d'usagers. C'est-à-dire qu'on voit vraiment, en matière de dégénérescence, la coopération d'usagers par rapport à la coopération de travail, c'est le jour et la nuit. On voit un petit peu de phénomène de dégénérescence dans la coopération de travail, comme je l'expliquais, hein, très clairement. C'est énorme dès qu'on est dans la coopération d'usagers. Regardez les crises du coopérative group anglais. Il y a 4-5 ans, Quand vous pensez que c'est la suite des pionniers équitables de Rochdale de 1843, vous êtes affligé avec des PDG qui touchent des salaires de quelques millions de livres, ou le Golden, le nouveau qui avait été appelé, qui est arrivé avec un Golden Hello de 1 million de livres. Bon, voilà, on ne contrôle plus rien. Là.
Une question encore ? Une toute petite question alors. Aujourd'hui, lorsque, pour les respects de compétitivité, comme on l'entend, il y a des sacrifices qui sont faits et le responsable ou celui qui est accusé, c'est le propriétaire de l'entreprise. Demain, avec les communs, comme la propriété n'existe plus, est-ce qu'il ne va pas y avoir autoflagellation des travailleurs du commun pour, pareil, respecter la compétitivité, de la concurrence, comment gérer la concurrence dans le cadre de communs, etc.
Encore une fois, je pense qu'on est dans une société qui sera quand même largement moins concurrentielle que celle qui existe aujourd'hui, ce qui nous permettra quand même d'avoir des rapports un petit peu plus détendus avec l'économie. Ça, c'est la première chose. Je dirais, pour faire court et simpliste, une économie peut-être un petit peu plus humaine, déjà. Ça, c'est la première chose. Ensuite, l'idée de dire on se retourne contre la direction quand la direction a failli, ça, c'est quelque chose qui existe, qui peut-être existera demain. C'est vrai que je pense un des volets que je n'aborde absolument pas dans mon livre, mais qui me paraît essentiel de travail, c'est la question de nouvelles méthodes de management. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je vous ai posé la question de dire, j'ai simplifié dans mon livre, j'ai simplifié en disant, ce sont les travailleurs qui élisent leur directoire, qui élisent leur direction et puis qui peuvent révoquer à tout moment, puisque comme dans une société anonyme, tout simplement, on ne va pas réinventer les choses là-dessus. Donc, ils peuvent révoquer à tout moment, donc il y a une direction. Mais quelque part, ce qui se passe, et c'est ce qu'on voit souvent dans les scopes d'ailleurs, c'est cette direction qui nomme ensuite le management. C'est pas tout à fait vrai dans les scopes, dans la réalité. Dans la réalité, il y a des pratiques de management participatif qui ne se disent pas, mais qui se pratiquent du simple fait que la direction est élue. Je pense qu'il y a une direction de travail. Alors, je pense par exemple au bouquin d'Alexis Cuquier, je pense au bouquin de Thomas Coutreau, Libérer le travail, qui sont des axes de recherche très intéressants qui consistent à dire cette organisation hiérarchique du travail, en fait, c'est l'organisation du capital. C'est-à-dire que le capital, pour se valoriser, il a embauché des gens et il a besoin d'une direction qui fait bosser les gens dans le sens de la maximisation de la valeur ajoutée au-delà de la masse salariale pour tirer des profits. D'accord ? C'est ça. Ce qui est intéressant, c'est de voir qu'on voit de nouvelles structures de management se créer dans lesquelles on a un management beaucoup plus autogéré. Alors souvent, on le voit lorsque l'entreprise capitaliste est en crise, mais je pense aussi que c'est un axe de réflexion à penser dans les organisations, qui ne sont pas privées. On voit des tentatives se faire dans certains services publics, dans des associations, et ça, c'est quelque chose qui, à mon sens, est intéressant de suivre, de pousser, d'autant plus que demain, si on est dans le commun productif tel qu'il a été défini avec un conseil des travailleurs et un conseil des usagers, quelque part, il est très important que la démocratie dans l'organisation du travail existe. Et pour ça, c'est revoir les modes de management, que ce champ soit vraiment celui des travailleuses et des travailleurs et pas celui des usagers. Qu'il n'y ait pas une situation dans laquelle les usagers nomment une direction ou nomment une direction avec laquelle ils sont capables de travailler et qui va imposer des normes aux travailleuses et aux travailleurs. Donc, c'est un axe, à mon avis, de recherche, de pratique à développer dans les années qui viendront. Mais je crois que notre ami Thomas Coutreau et d'autres prennent des initiatives en ce sens, auxquelles d'ailleurs je compte m'associer. Voilà.
Merci à Benoît Boris pour cette présentation, la réponse aux questions. Pour ceux qui ne reçoivent pas nos informations, laissez-nous votre mail à l'entrée sur la table de presse. Les livres de Benoît sont bien sûr en vente à l'entrée. Comme l'a dit Fabienne, prochaine séance au mois de décembre sur l'Europe. Et ensuite, on filera au mois de janvier avec un atelier à la Nouvelle Réserve. Voilà, merci beaucoup à vous tous et merci à Benoît pour sa présentation.
Merci à vous. Merci à vous. C'est vos questions.